Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International, le premier rendez-vous du jour, puisque nous en aurons deux aujourd'hui, avant et après les matchs de Ligue des Champions. Avec, pour commencer, ce dernier des clubs français encore en course, cette équipe qui régale par son style. L'AS Monaco jouera ce soir à Dortmund contre le Borussia. Ces deux équipes ont beaucoup de points communs, comme leurs attaquants jeunes et rapides, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Monaco est-il favori ? À Turin, une rencontre au sommet sur un air de déjà-vu. Juventus-Barcelone comme en finale de la Ligue des Champions en 2015. Mais le FC Barcelone est-il aussi fort que cette année-là face à une vieille dame qui file allègrement vers son sixième titre de champion d'Italie ? Enough is enough, criaient hier les supporters d'Arsenal à leurs Gunners, défaits par les Eagles de Crystal Palace. Une nouvelle défaite, la huitième de la saison, qui hypothèque les chances de compétition européenne pour l'an prochain. Arsène Wenger peut-il, doit-il survivre à cet affront ? 8 matchs et puis s'en va. Eduardo Bauza n'aura tenu que 9 mois à la tête de l'équipe d'Argentine, renvoyé hier soir alors que l'Albi Celeste, vice-championne du monde en titre, n'est pas encore qualifiée pour la Coupe du Monde en Russie. Qui pour le remplacer alors que la fédération argentine va toujours aussi mal ? Carlos Bianchi, vous êtes candidat ?
Bonjour Annie, comment ça va ? Regardez le soleil qu'il y a à Paris, c'est extraordinaire, profitons-nous.
Vous ne voulez pas les sauver les Argentins là, pour quelques mois, pour les qualifier ?
Mais pourquoi vous ne parlez pas du soleil ?
Il y a du soleil aussi à Buenos Aires pour travailler.
C'est l'automne.
C'est l'automne, ah oui, c'est vrai. Il fera moins chaud. Bonjour Carlos, il y a aussi Franck Simon dans cette émission. Bonjour Franck.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Frère de France Football qui met Neymar en une cette semaine.
Exact.
Et puis il y a aussi Jean-Philippe Bouchard, notre camarade désormais des éditions Solar. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Et puis un Argentin appelle un autre Argentin pour que ça fasse débat. Carlos Bianchi. Oui. Alejandro Valente, le jefe, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Et puis nous avons un stagiaire, alors fils d'un illustre correspondant d'RFI, d'Emmanuel Coffi. Il s'agit de Emeric Kouassi. Bonjour Emeric.
Bonjour Annie.
Bienvenue dans Radio Foot.
Merci.
Radio Foot, c'est parti.
On sait que c'est une force en plus pour leur équipe, c'est quand même impressionnant à leurs supporters, mais ça va être une motivation en plus pour nous.
Un plus pour une équipe au pied du mur, la dernière équipe française encore en course en Ligue des Champions et face au mur jaune ce soir, puisque Monaco joue à Dortmund, joue dans la roue contre le Borussia. Les jaunes et noirs donc du Borussia reçoivent les rouges et blancs de Monaco. Et non, ce n'est pas le Paris Saint-Germain qui, depuis l'arrivée des Qatariens, crie haut et fort son objectif de remporter la plus belle des coupes européennes. Il s'agit donc de l'équipe française du Rocher Monaco, l'équipe monégasque plus discrète, même si elle aussi a un prince en tribune, un passionné, même ce fan numéro 1, le fils de grâce de Monaco, qui n'est pas propriétaire, mais qui est un assidu, donc fanatique, et qui sera en tribune ce soir à Dortmund. Alors les Monégasques, ça va quoi s'en tenir, puisqu'il y a 25 000 supporters dans ce mur jaune, prêts à hurler, à encourager leur équipe. Et quelqu'un aura la chance d'assister à ce spectacle, c'est Cédric De Oliveira, l'envoyé spécial de la rédaction. Bonjour Cédric.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Alors Cédric, vous êtes déjà dans le stade, vous êtes peut-être tout seul encore à cette heure-là.
Alors je suis juste devant, alors c'est plutôt calme hein, pour le moment, c'est un petit peu le calme avant la tempête, il y a seulement quelques supporters qui viennent d'arriver, qui arrivent tout doucement là, tout de jaune vêtu. L'ancien Van Fallen Stadium, hein, il est impressionnant, parce que je suis quand même rentré à l'intérieur, et bien il est impressionnant, même vide. Alors qu'est-ce que ce sera tout à l'heure quand les 65 849 places, il faut être précis, elles seront remplies, un match qui se jouera évidemment à guichet fermé devant une des ambiances les plus chaudes d'Europe. vous l'avez dit, notamment grâce à la foot tribune, le fameux mur jaune que vont découvrir les Monégasques. Alors ce ne sera pas aussi impressionnant qu'en Bundesliga, hein, puisque la tribune, elle abrite 24 000 personnes. Là, il y aura seulement 11 000 fans dans cette tribune. Tribune où 11 000 fans qui seront assis, puisque ce sont les normes imposées par l'UEFA, mais ça risque d'être très impressionnant quand même. Ça pèse dans la balance, puisque ça fait notamment 2 ans que le Borussia est invaincu en championnat. Voilà, les supporters, je vous le disais, qui arrivent quelques centaines pour l'instant devant le stade.
Oui, impatients certainement de découvrir leur équipe en quart de finale de la Ligue des Champions. Jean-Philippe, vous êtes déjà allé dans ce stade assister à une rencontre avec ce mur jaune.
Oui, oui, j'ai traîné mes guêtres quelques fois. À l'époque, c'était le Westfalenstadion. Et c'est vrai que la tradition à Dortmund là-bas, c'est vraiment que les supporters soient debout, même si en Ligue des Champions les sièges sont imposés et donc il y a moins de spectateurs, mais il reste debout, il est interdit de s'asseoir pendant la rencontre. Et c'est vrai que l'effet est saisissant parce que c'est extrêmement vertical. C'est la tribune, une des tribunes les plus droites, les plus verticales d'Europe. Et quand on parle de mur, c'est qu'on a vraiment l'impression que
ça peut debout,
oui, que ça peut
comme un
tomber
homme.
Dessus en fait finalement. Ouais. Et l'équipe Dortmund se positionne toujours pour essayer, quand elle a le choix, quand elle gagne le toss, pour essayer d'attaquer en deuxième période vers le mur pour que les adversaires, en fait, tout le public qui hurle derrière eux, dès que Dortmund a la balle, en fait, il y a un frémissement qui monte, et quand on est dos à ce mur, finalement, ça saisit
ça
souvent
porte.
Les adversaires.
Ouais, voilà. C'est là que l'expression 12e homme n'est peut-être pas surfaite et qu'on peut compter sur le public.
Elle prend tout son sens, ouais, vraiment, c'est vraiment très impressionnant. Quand on est debout au pied de cette tribune, on a vraiment l'impression que ça peut vous tomber dessus. C'est très impressionnant.
Et c'est amusant, cette tribune mythique, parce qu'en même temps, on dit que le président, un jour, avait confié, il y a quelque temps, à nos confrères de SoFoot, que en fait, ça lui coûte cher, cette tribune, parce qu'en fait, c'est une tribune populaire, et que si les places étaient vendues plus cher, ça rapporterait à peu près 3,5 millions d'euros par an de plus si c'était des sièges payants plus chers.
Oui, en même temps, elle a un taux de remplissage qui est quasi de 100%, donc en même temps...
Ah, arrêtons de penser toujours. Parce que si vous dites Westfalium Salom Stadium à l'époque, comme disait Cédric, c'est parce qu'il a changé de nom et succombé à la mode du naming. Cédric De Oliveira, une dernière chose avec vous. Les dernières infos, quelles sont-elles? Parce qu'au niveau des compositions d'équipe, on était peut-être un petit peu inquiet du côté de Monaco. Peut-être que Benjamin Mendy ne jouerait pas. On le sait, il y a beaucoup d'absents du côté du Borussia. C'est un fait. On reviendra sur le match face au Bayern. Déjà, durant le week-end, ils ont dû se passer de pas mal de vedettes.
Oui, alors, vous l'avez dit, il y a une incertitude toujours autour de Benjamin Mendy. Benjamin Mendy, on ne sait toujours pas s'il sera titularisé. Le staff monégasque qui fait tous les efforts possibles. Benjamin Mendy qui est blessé depuis le match face à Angers de ce week-end. Il est blessé au psoas et Leonardo Jardim hier, notamment en conférence de presse, disait qu'il ne savait pas s'il pourrait l'aligner. Alors ce sera vraisemblablement l'Italien Andrea Racchi, le vieux grognard italien de 32 ans, qui risque notamment de se coltiner les jambes de feu de Ousmane Dembélé, hein, qui lui a 19 ans. On lui souhaite bon courage. Il y a évidemment beaucoup d'absents, vous l'avez dit, à Monaco, notamment Djibril Sidibé à droite, qui lui a été opéré de l'appendicite. Ce n'était pas prévu non plus. Il sera remplacé par son remplaçant naturel, le jeune franco-malien Almami Touré. Et puis, autre absence côté Monaco, ce sera Tsimoué Bakayoko dans l'entrejeu. Le milieu de terrain français, le jeune international, lui, il sera remplacé par le portugais João Moutinho, qui fera la paire avec le capitaine brésilien Fabinho.
Mmh. Alors que du côté de Dortmund, Reus était absent, peut-être qu'il est sur le retour, c'est ça?
Reus, lui, apparemment, il sera sur le banc de touche, peut-être qu'il rentrera en fin de match. L'attaque, ce sera Pierre-Emerick Aubameyang qui sera en pointe, le Gabonais évidemment, 34 buts cette saison de toute compétition confondue. À droite, je vous l'ai dit, Ousmane Dembélé, 19 ans, et à gauche, vraisemblablement, ce sera l'Américain Christian Pulisic qui lui n'a que 18 ans, très jeune également, cette équipe de Dortmund, on l'a dit. Voilà, Marco Reus qui lui revient de blessure, il devrait pouvoir rentrer en fin de match dans cette rencontre.
Merci beaucoup Cédric, bon match et on se retrouve donc après la confrontation dans l'autre édition de Radio Foot. écoute, merci beaucoup. Franck Simon, finalement, c'est cette équipe de Monaco, je le disais tout à l'heure, c'est pas vraiment celle qu'on attendait à ce stade de la compétition, parce qu'elle travaille un peu plus discrètement à l'image sans doute de son entraîneur Jardine, mais en tout cas, c'est un vrai plaisir de les voir là, et peut-être moins une surprise quand on regarde contre qui se sont qualifiés, c'est quand même Manchester City.
Effectivement, ça a commencé il y a bien longtemps, ça a commencé en juillet. Il ne faut pas oublier tout ce parcours réalisé par l'équipe du Rocher. Et ils en sont à plus de 50 matchs, au moment où on parle, hein, toutes compétitions confondues. C'est pas rien pour des organismes, même si Jardine a fait tourner son effectif. Et là, on voit que, bah, en ayant fait tourner, en ayant fait jouer parfois Almami Touré, par exemple, le jeune franco-malien qu'on évoquait à l'instant, en l'ayant fait jouer en Ligue 1 quelques fois cette saison, eh bien voilà, il trouve cette place. Il était en difficulté le week-end dernier contre Angers, mais il a déjà beaucoup joué. Il arrive dans une défense qui est plutôt expérimentée, hein, puisqu'on a quand même Glick et Radji, par exemple, et puis le gardien derrière Subasic. C'est d'ailleurs le secteur le plus expérimenté de Monaco. C'est aussi une équipe, vous le disiez, c'est une équipe qui nous a beaucoup séduits tout au long de la saison. Peut-être moins ces derniers 10 jours.
Oui,
hein.
Évidemment, contre le coupe, Paris Saint-Germain.
Voilà, en finale de la Coupe de la Ligue, on n'a pas eu le droit à ce qu'on espérait en termes de jeu de leur côté, parce qu'ils ont été frustrés, ils ont été privés de ballon. Et puis contre Angers, le week-end dernier, franchement, ils ont donné des signes de faiblesse et ils s'imposent un petit peu...
Grâce à quelqu'un d'expérimenté aussi, Falcao.
Effectivement, Falcao qui était de retour, qui met un joli but. Mais c'est ce qui fait la différence aussi dans cette équipe, c'est qu'il y a des hommes qui peuvent apporter cette petite touche d'expérience. Mais ça va être une opposition de style, parce que nous, on faut aussi insister. Là, on parle beaucoup de Monaco, mais insistons aussi sur la défense ultra expérimentée du Dortmund. Je ne sais pas si vous avez vu les chiffres chez notre confrère de l'équipe. Match joué en Ligue 1, vous avez plus de 100 matchs pour ce qu'on appelle le back four en anglais, les quatre joueurs de la défense. Franchement, ça va être une très belle affiche. C'est une belle affiche et ce soir, on devrait avoir un très beau match.
Oui, et souvenons-nous qu'il n'y a pas si longtemps, cette équipe avait été finaliste de la Ligue des Champions aussi, cette équipe de Dortmund. Carlos, est-ce que vous voyez des points communs? Nous, on avait l'impression tout à l'heure quand on préparait l'émission qu'on voit des points communs finalement entre le style Dortmund et le style Monaco. Peut-être beaucoup vers l'offensive et un peu moins aussi, même s'il y a des expérimentés à l'arrière.
Moi, j'avais le doute. Je suis sincère. Je l'avais dit à Alexandre tout à l'heure. Je l'ai dit. Je ne sais pas quel match regarder. Il y a un match que je sais comment ça va passer. Barcelona-Juventus. Mm-hmm. Je le sais déjà à l'avance comment ça va jouer. Par contre, ça va être pile ou face l'autre. L'autre, ça va être extraordinaire parce que Moutinho, il faut voir s'il peut remplacer Bakayoko. Parce que Fabinho, il va falloir qu'il travaille beaucoup. Eux, ils jouent avec 4 joueurs au milieu de terrain. Mm-hmm. Qui bougent beaucoup. Qui sont très rapide, qui monopolise le ballon et qui part très, très rapidement en contre-attaque. Alors pour moi, ça va être un match aller-retour. Je crois que dans ce contexte-là, il faut penser que défensivement, à Monaco, il manque 3 titulaires. Mm-hmm. Un milieu terrain défensif et les deux latéraux. Alors, une défense qu'elle ne se connaît pas tellement, même s'il joue Raji, etc., etc., attention, contre l'attaque de Borussia Dortmund, le pile au face, c'est surtout, dangereux.
Radji, il a quand même l'habitude de se trouver une fois ou deux par match, quand même. Donc, oui, là, en face, il y aura des morceaux.
Mendy,
en face,
hein. Mendy et Sidibé sont très importants par le rapport offensif. Dans les phases offensives de Monaco, ils jouent un rôle très important. Là, peut-être, il y aura, notamment du côté d'Almami Touré, un peu plus de sécurité derrière.
Pas sûr, parce que souvenez-vous de ce qui s'est passé contre Angers où il a fait 2-3 cagades et on a bien vu les images, il s'est fait d'ailleurs enguirlander par ses coéquipiers à un moment donné, ils lui ont demandé de faire attention. Je suis très d'accord avec Carlos dans le sens que c'est peut-être sur les côtés qu'il va y avoir des faiblesses, parce que Glick, Jemerson, j'y crois plutôt, ça sera solide. Au moment où le ballon va venir là devant le gardien, mais sur les côtés et dans le dos, il risque d'avoir des soucis. Hein.
Et attention, Dembélé et Pulisic sont très rapides, c'est tous ça. Les deux, et très habiles. Et chaque fois qu'ils ont le ballon, ils t'attaquent. Ils ne prennent pas le ballon pour le garder, pour jouer. Eux, ils jouent au pile ou face. Ou je passe ou je ne passe pas.
Et puis, il y a quelqu'un devant qui sait se trouver au bon moment, au bon endroit. C'est Pierre-Emerick Aubameyang.
Ça va être un match pour moi très...
Est-ce qu'on peut penser au match finalement contre, par exemple, Manchester City, Alejandro? Parce que finalement, ouais, au début, on a vu cette pluie de buts. Le match aller, on se dit, le match retour, il ressemblera peut-être pas. Et finalement, il a ressemblé. Et on avait l'impression que c'était... On se rue vers l'attaque, bah, même si...
Ce qu'il y a de similaire, c'est que City a aussi une défense très friable. Donc, on va avoir encore une fois une telle configuration. Après, Borussia Dortmund est une équipe beaucoup plus rapide dans ses phases offensives. Et je pense que ça peut poser d'autres types de problèmes à Monaco.
Moi, l'équipe de oui, je voulais revenir sur Dortmund parce que j'ai en tête ce match qu'ils ont fait contre le Real, où ils étaient menés 2-0, où honnêtement, ils ne touchaient pas le ballon. Hein. Et à l'arrivée, ça fait match nul avec un super Pierre-Emerick Aubameyang, une équipe qui avait déployé tout son jeu, qui s'était accrochée, qui avait fait preuve de beaucoup de force morale, très solide, très disciplinée, très rapide, comme le disait encore Carlos. C'est pour ça que je n'envisage, mais pas un seul instant, le scénario de City entre Dortmund et Monaco. Je serais même plutôt inquiet pour Monaco de par ce qu'ils nous ont montré ou pas montré ces dernières semaines.
Mm-hmm. Une question sur les attaquants, Jean-Philippe, parce qu'on parle beaucoup évidemment d'Aubameyang et on en a beaucoup parlé surtout ces temps-ci avec ces frasques du côté de Dortmund, mais on avait envie plutôt de comparer deux qui peut-être peuvent se comparer, c'est Ousmane Dembélé, espoir français mais qui joue depuis le début de saison du côté de Dortmund, qui est peut-être dans le sillage d'ailleurs d'Aubameyang pour ce qui est de la réussite et de la formation, et puis de l'autre côté on a un Kylian Mbappé un tout petit peu plus jeune mais qui lui aussi étonne et a le même point commun, c'est la vitesse.
Ouais, tous les deux révélés en équipe de France des moins de 18 puis moins de
déjà
20
convoqué.
Ans.
Déjà convoqué.
Qui a gagné en plus ces dernières années pratiquement tous les trophées qu'elle a disputés. Donc il a un parcours déjà international, il a une expérience internationale qui est intéressante. Et il faut pas, oui, effectivement, Franck Simon me fait signe qu'il faut pas oublier Lemar, évidemment. Mais c'est ça qui est intéressant dans cette équipe de Monaco, parce qu'il faut, Franck disait tout à l'heure que tout a commencé en début de saison. Mais moi, j'y remonterais même encore plus loin. Tout a commencé presque il y a 3 ans, quand Jardim est arrivé, où il avait là un portefeuille ouvert pour faire son marché et acheter des joueurs qui sont toujours là pour certains, comme Falcao, Moutinho, enfin, qui sont l'ossature du club. Mais il a aussi permis l'émergence de talents. Alors, il a peut-être eu de la chance, mais il a aussi su les bonifier et les amener très vite à un très haut niveau. On a eu Martial qui est parti, et puis ça continue. Il y a toujours derrière un remplaçant qui est pratiquement aussi fort. Et ça, c'est quand même extraordinaire.
Et puis, Carlos, parfois, lancer un joueur jeune, ça peut. Et qui n'a pas forcément l'habitude, on parlait tout à l'heure de Touré, ça peut aussi fonctionner. On l'avait vu avec le Paris Saint-Germain contre le Barça, quand ils mettent Kimpembe, parce qu'il n'y a pas d'autres défenseurs.
Le plus important, c'est que le joueur il se rend compte que l'entraîneur il a confiance en lui. Mm-hmm. Alors là, le joueur, après, il est capable de faire un match qu'il ne pense jamais qu'il va le faire. Il faut le faire jouer les jeunes. Mais il faut que le jeune, il le mérite aussi, parce que des fois, ils arrivent très facilement, ils ne sont pas au niveau. Mais ces jeunes-là de Monaco, Lemar, ça fait déjà 2 ans qu'il joue la Champions.
Oui.
Ce n'est pas la première année.
Mm-hmm. Exact.
Alors, ce sont des joueurs qui commencent à avoir de l'expérience très jeune et qui les donnent un renouveau à l'équipe. Ils les donnent la joie de vivre, parce que quand tu vois jouer Mbappé, il a la joie de vivre, lui. Sylvain, il a la joie de vivre, il prend le ballon, il veut jouer.
Alors une chose pour Monaco, ils ont tous dans la tête la
championnat.
Saison.
Le championnat, ils sont dans la tête, je pense. Excusez-moi, Annie. Pour moi, Monaco, le plus important pour eux, et ils l'ont dit pas mal de fois, eux, ils veulent être champions de France.
Mmh, ouais. Alors, en 2004, hein, ils avaient perdu le championnat, ils avaient été en finale de la Coupe européenne, ils l'avaient perdu. Est-ce qu'ils doivent choisir? Est-ce que dans leur tête, non, ils choisissent, Carlos? Est-ce que l'entraîneur leur dit de choisir?
Non, l'entraîneur ne lui dit pas de choisir. Et le joueur, quand il rentre sur un terrain, c'est pour gagner un match. Le joueur, il ne peut
s'ils
pas...
Sont rentrer, s'ils sont défaits à Dortmund, ils laisseront tomber le match retour?
Non, je crois pas. Sauf si tu fais comme,
non,
sauf comme Arsenal. Sauf comme Arsenal, que tu perds 5 ans à l'extérieur. Mais si tu perds un match pour 2 buts d'écart, tout doit jouer le
c'est
plein.
C'est encore possible.
Dans, dans le calendrier, c'est plus la demi-finale contre le PSG de Coupe de France
qui sera
PSG qui risque peut-être d'être moins investi par Monaco. Où là, Jardim a déjà dit qu'il allait faire tourner. Mmh. Effectivement, bon, en plus, ils sont déjà là, avec la confrontation finale de la Coupe de la Ligue contre Paris, ils ont déjà pris une claque. Ouais. C'est sûr que c'est plutôt s'il y a un choix à faire dans les compétitions, c'est plus sur la Coupe de France qu'il y aura une impasse.
Et sûrement pas la Ligue des Champions. Mais la Coupe de France, ils viennent après les deux allers-retours.
Oui, certainement.
Ils viennent après.
Oui, mais il y a encore le championnat.
Le championnat, et ça,
ils voudraient bien que eux, le championnat, ils veulent gagner.
C'est la fin de la première partie de Radio Foot International. On se retrouve juste après les infos.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Deuxième partie de Radio Foot International sur RFI, toujours dans le cadre des matchs de Ligue des Champions. Nous avons Franck Simon, Jean-Philippe Bouchard, Alejandro Valente, Emeric Kouassi et puis nous avons Carlos Bianchi dans cette émission pour évoquer l'enjeu de ces matchs. À noter pour ceux qui sont supporters du Borussia Dortmund que depuis aujourd'hui, alors c'est évidemment pas un hasard, une version française du site du Borussia Dortmund existe désormais. Et vous pourrez donc avoir des nouvelles directement du club en allant sur le site. Et cela fait la grande joie de Ousmane Dembélé qui le confiait ces jours-ci dans les colonnes de l'équipe. Il a un petit peu de mal encore avec la langue allemande, il a du mal à l'apprendre. En tout cas, il y aura, vous y faisiez déjà allusion, Carlos, un autre match dans une autre enceinte mythique, c'est celle de Turin. Et c'est un match qui fut une finale à Berlin il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans, entre la Juventus et le Barça. Un match où les Blaugrana avaient été les plus forts, remportant encore un trophée avec un score de 3-1. Mais le capitaine de Turin, le capitaine Gianluigi Buffon, capitaine aussi de la Squadra Azzurra, il préfère oublier, enfin sans vraiment oublier.
Non, mai rivisto la finale di Berlino.
Non. Je n'ai jamais revu cette finale à Berlin. Mais j'ai des souvenirs clairs de cette nuit-là. Ces souvenirs me font sentir très optimiste. À Berlin, nous avions affronté une équipe qui était largement supérieure à la nôtre en termes de confiance et d'expérience dans l'approche de certains types d'événements. Aujourd'hui, nous faisons face à la même équipe qui est en théorie meilleure que nous. Cependant, nous avons gagné 2 autres années d'expérience européenne. Nous avons davantage confiance en nous. Cela nous permet d'aborder le match avec la bonne attitude, sans être nécessairement les victimes.
Les victimes sacrificali.
Carlos, vous imaginez le match? Est-ce que quand même on va avoir un match prévisible entre deux équipes qui se connaissent sans doute bien, mais qui ont sans doute changé parce qu'il y a beaucoup de monde dans l'effectif de la Juve qui n'est plus
Six.
Là. Exactement.
Dans la Juventus.
Il n'y a plus Pirlo, il n'y a plus Vidal, il n'y a plus Pogba.
Ni Morata, Tevez, Pogba et
Evra.
Par contre, ils ont Dani Alves qui est parti du Barça qui a traversé le terrain.
Face. Mm-hmm. Oui. Moi, je pense que Barcelone ne peut pas changer sa façon de jouer. Il va essayer de monopoliser le ballon, de garder le ballon. D'accord ? Mm-hmm. Et la Juventus, c'est une équipe italienne, que ce n'est pas une équipe comme Milan. Que Milan essaye d'avoir le ballon de l'époque de Milan, non? De jouer offensivement. Juventus, il est beaucoup froid, beaucoup plus froid. Il est
calculateur.
Il est l'image de. C'est lui qui était le plus de fois champion en Italie, champion d'Europe.
Ils vont l'être
aussi.
Sans doute pour la 6e fois d'affilée.
C'est pour ça que je dis, je pense que c'est une équipe très froide qui va essayer de jouer pour avoir un bon résultat à sa faveur. Ça me prend trop de risques, même s'ils jouent chez eux.
Oui.
Je crois pas.
Alejandro, ce Barça qui arrive, qui quand même, depuis la remontada, maintenant trop célèbre et trop fameuse en Europe et en France face au PSG, ce Barça, depuis, il a perdu, notamment le week-end dernier en championnat. Il a sans doute dit adieu au titre de champion d'Espagne.
On verra, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Barcelone est beaucoup moins fort quand il n'a pas ses titulaires sur le terrain. On l'a vu encore ce week-end où il y avait beaucoup de remplaçants, notamment au milieu du terrain. Lorsque l'équipe titulaire est là, ça se passe généralement beaucoup mieux. On va voir quel est le choix tactique que va adopter Lucien Riquet.
Il y avait les titulaires au Parc des Princes et oui, on avait quand même vu une image, l'ombre d'elle-même.
Il y avait André Gomes à la place de Rakitic, enfin il y avait des changements quand même. Mais surtout, ce qui peut peser dans les têtes des Barcelonais, c'est le souvenir de ces 4-0 justement. C'était leur dernier déplacement européen, ça a été une catastrophe. Donc aujourd'hui, il s'agit de ne pas perdre cette bataille du milieu du terrain qu'ils avaient perdue à Paris.
Jean-Philippe.
Moi, ce qui m'intrigue dans ce Barça en ce moment, parce que la Juve, elle est solide finalement. Elle a renouvelé ses joueurs, elle a plutôt gagné au change. Hein. Je pense qu'elle est plus forte que l'an dernier encore, la Juventus. Et ce qui est intriguant avec ce Barça, alors évidemment, nous en France, on est marqué par la remontada et les 6 buts passés au PSG. Mais entre-temps, le Barça est assez irrégulier. Et c'est ça qui est un peu inquiétant. C'est plus le Barça qui imposait sa suprématie à l'Europe ces dernières années. Là, ce week-end, je ne sais pas s'ils ont perdu le titre, mais en tout cas, ils ont manqué une occasion en or, puisqu'ils jouaient après le Real qui avait fait match nul. Ils avaient une occasion en or de revenir, de reprendre 2 points au Real, et finalement, ils se sont inclinés. Ce qui est quand même assez inquiétant. Ils avaient vraiment les cartes en main. Et ça, est-ce qu'ils avaient la tête ailleurs ? On n'en sait rien. Voilà. Mm-hmm. Mais sur le principe, c'est un peu inquiétant de voir qu'ils ne maîtrisent plus le sort des matchs.
Ils ne sont plus réguliers, en tout cas, peut-être. C'est ça, Franck. C'est le manque de régularité du Barça.
Ils ont perdu ça en route, effectivement.
Face à Turin, qui, malgré tout, aligne toujours des résultats impressionnants.
Oui, et puis... Ils sont pas en danger en championnat, ils alignent ces matchs. C'est que de la répétition, c'est que du travail, c'est que des devoirs à la maison, quoi, pour eux, si vous voulez. Et quand je vois le milieu de terrain qui risque de se présenter côté Juventus contre le Barça, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Il y aura pas forcément beaucoup d'espace pour les Catalans. Je pense que ça va être le secteur clé. Dans cette rencontre, le secteur clé au milieu de terrain où ils peuvent verrouiller, où ils ont, il y a aussi un axe très fort du côté turinois. Je ne vois vraiment pas les Catalans se balader, en tout cas sur ce match aller. Et puis les dernières sorties m'ont pas forcément beaucoup convaincu, quoi. Donc ça peut être un match fermé.
Pourtant, on va l'entendre, Massimiliano Allegri, il préfère rester évidemment très humble face à ces Barcelonais.
Il est l'élève.
À ces Blaugrana. Oui, surtout, et qui les avait quand même pas mal vexés lors de cette finale.
Favoris, non, parce que demain, il y a une partie équilibrée.
Les favoris, oulala, comme vous y allez. Non. Ce sera un match très équilibré. Lorsque vous jouez le premier match à domicile, il est toujours bon de ne pas concéder de but. Et ce sera très difficile. Tout d'abord, notre principale priorité est de marquer. Nous savons que Barcelone a de grandes qualités offensives, mais aussi des points faibles défensivement. Nous travaillons sur les aspects de leur jeu, peu importe si nous parlons de Barcelone ou du Chievo, en ayant du respect pour le Chievo, bien sûr. Mais travailler sur leurs faiblesses est le seul moyen d'aller de l'avant. Parce qu'on ne peut jamais vraiment envisager de savoir de quelle manière on va affronter le FC Barcelone. Alors avoir 2 matchs sans but et décider de tout lors d'une séance ultime de tir au but, non, c'est impossible.
Pratiquement impossible.
Jean-Philippe, impossible, dit-il.
Ouais, moi, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, Carlos disait avec raison que si titulaires ont changé dans la Juve. Sauf que, en fait, si on regarde bien, la défense est restée telle quelle, à part Evra, et qui a été remplacée plutôt par Dani Alves, c'est quand même, à mon sens, plutôt mieux. C'est plutôt amélioré. Donc, en fait, c'est une équipe qui ne prend pas de but. Sa structure défensive est très solide. Et c'est pour ça que...
Ils n'ont pris que 2 buts seulement.
C'est pour ça que c'est un peu inquiétant pour un Barça irrégulier qui est censé faire le jeu. Il risque de se heurter à un mur et laisser des espaces derrière.
Alejandro Iniesta, dont on attend toujours quand même l'éclair du côté du Barça. Est-ce que c'est toujours... cette lumière qui brille dans l'équipe où le problème, c'est que c'est un peu intermittent maintenant.
De moins en moins. C'est vrai qu'il a toujours son toucher de ballon, etc. Mais il n'a pas la capacité qu'il pouvait avoir à changer le rythme du match, à accélérer, à casser les lignes comme il les faisait avant.
Tu sais pourquoi, Alexandre, je me rends compte qu'Alba, il n'est plus le même. Alba, cette année, il joue pas, il est blessé, il n'est pas blessé, il n'a pas le rythme, il n'arrivait pas à déborder autant. l'autre c'est Sergio Roberto, il déborde pas à droite non plus. Alors à la fin des comptes, c'est pas le même Barcelona qu'on a vu quelques années avant. C'est pas le même.
Franck.
Oui, il y a aussi un duel que les médias ont évoqué, celui entre les deux grands Argentins. On a Paulo Dybala d'un côté et puis Léo Messi de l'autre, même s'il y a un déséquilibre en termes d'expérience, de titres, de volume, etc. Mais je pense que ça va être notamment très intéressant ce soir de suivre ce duel à distance entre la jeune génération qui a encore rien fait à part gagner quelque chose en Italie, et puis Messi qui est l'ogre qu'on connaît aujourd'hui.
Oui, qui au même âge avait déjà gagné une Ligue des Champions.
Il y aura un autre duel intéressant, c'est celui de Chiellini avec Suarez. On se rappelle de leur rencontre à la Coupe du Monde de 2014.
Rencontre mordante, n'est-ce pas, Alejandro?
Voilà. Et l'arbitre sera très important dans ce match, parce qu'à Barcelone, il y a trois joueurs majeurs qui pourraient être suspendus pour le match au retour en cas de carton jaune, c'est Neymar, Piqué et Rakitic.
Et justement, vous le savez, Alejandro Bonucci, quand même, il a eu une petite phrase assez piquante. Il a dit, il s'est demandé si le Barça viendrait avec son arbitre. Alors évidemment, on le sait tous.
Qui a dit ça ?
Bonucci. Il a dit ça. Alors évidemment, il faisait allusion au fameux arbitre face au PSG qui a depuis été suspendu par l'UEFA.
Il n'oublie pas Bonucci, la finale à Bruxelles, qui sont sifflés le pénalty, qu'il a gagné en 0.
Il n'y aura pas de vidéo.
Mon Dieu, la Juventus, il y a quelqu'un qui ne doit pas parler, c'est la Juventus. Ils ont tout fait en Italie.
Un tour de table, messieurs, sur ces deux matchs. Qui donnez-vous gagnant, perdant ou peut-être, je sais pas, égalité?
Le Franck, match ou la qualification?
Non, sur les deux. Non, sur le.
Sur les deux matchs et
ce soir. De ce soir.
Dortmund contre Monaco.
Vainqueur
et une petite victoire de la Juventus.
Ouais, moi je vois pareil, mais même je pense que la Juve peut même s'imposer par plusieurs buts d'écart même.
Combien? 2-3?
Tu vas me faire voir le match!
Carlos,
mais tu m'assures!
Carlos, calme-toi! Il nous fait peur là! Aïe.
Moi je voyais un 0-0!
Non, des buts! Carlos, ça peut craquer!
Un petit but!
Des buts! Oui, peut-être.
Piqué Mascherano. Alejandro?
Allez, moi je vois le Borussia gagner 3-2 et Barcelone gagner 2-1.
Ah oui, mais Alejandro,
il mouille, c'est bien.
N'oublie pas qu'il est la famille à Barcelone.
Tout le monde, tous les auditeurs savent qu'Alejandro a le cœur qui penche du côté du Barça.
Et moi.
Et vous, Carlos?
Et moi, je pense que ça va être un match nul, Juventus-Barcelone. Mm-hmm. Et après, Borussia.
Avec des buts quand même, avec des buts.
Je t'ai fait confiance. Et l'autre,
passation
je pense
de pouvoir
que Borussia il va gagner. Il va gagner, mais pas comme avec un résultat pour dire je suis qualifié.
Pas si facile. Ouais. On met rendez-vous tout à l'heure, donc 21h10, temps universel pour nos auditeurs africains. Goal it could be in their season. Zaha. Kabay. Oh, what a goal by Kabay. Crystal Palace 2, Arsenal 0. Oh, now that will be a penalty. It is. Got to be. And he takes it. Palace lead 3-0. Who would have imagined that scoreline? Les Gunners en plein cauchemar. Après leur défaite, leur déroute, on peut dire, sur la pelouse de Crystal Palace hier soir, la presse se déchaîne aujourd'hui outre-Manche contre l'équipe d'Arsenal qui fit si longtemps rêver ses fans, l'Angleterre, l'Europe, voire même d'autres pays et d'autres fans. Surtout, les tabloïds font des unes qui se moquent autant des canonniers que de leur coach, l'emblématique Arsène Wenger, qui a eu bien du mal à trouver les mots en sortant de la pelouse hier soir après cette 8e défaite de la saison. Il a refusé de s'arrêter devant les micros, il est juste allé parler en conférence de presse.
Chaque défaite est problématique. J'ai dirigé plus de 1100 matchs avec Arsenal et on n'a pas l'habitude de perdre de cette manière. C'est vraiment préoccupant. Après un match comme celui-là, je suis très déçu, mais déterminé. Il faut rapidement se remettre en selle. Le principal souci du moment, ce n'est pas mon cas personnel, mais le fait que nous ayons perdu ce soir un match important dans la course à l'Europe. Et ça, c'est très inquiétant.
It's a big worry. Alors quand il dit qu'ils n'ont pas vraiment l'habitude de perdre comme ça, Emeric, nous on a l'impression quand même qu'ils les accumulent, les déroutes, on va dire, les Gunners.
Et bien sûr, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Arsenal est à sa 8e défaite cette saison en Premier League. 3-1 face à Liverpool, même score face au West Bromwich Albion. On rappelle également 3-1 concédé face à Chelsea. Et aussi, pour finir, la cuissante élimination par le Bayern de Munich en 8e de finale de la Ligue des Champions. Arsenal avait perdu 5-1.
Mmh, ouais. Simplement, alors c'est des résultats en dents de scie parce qu'ils sont quand même encore sixième, mais on se dit que finalement et mathématiquement, c'est peut-être pas encore cuit pour l'Europe et pour les Gunners aussi.
C'est pas très sûr, pas très sûr.
Mathématiquement, pas encore.
Oui. Et après cette grosse humiliation, Arsenal se trouve dans la zone rouge. Sixième au classement, vous l'avez dit.
Il faut être quatrième hein, pour être automatiquement qualifié.
Justement, 54 points au compteur. Les Gunners sont à 7 unités d'écart de Manchester City qui occupe la quatrième place. Ce qui va leur donner du fil à retordre pour la fin de saison. Le 30 avril, bras de fer avec Tottenham, très en forme actuellement. Puis le duel de choc face à Manchester United le 7 mai prochain. Arsenal devra mettre les bouchées doubles.
Arsenal, c'est où est le problème selon vous, Franck ?
Il partout le problème. C'est malheureux de parler comme ça, mais j'ai presque envie de comparer ça à un cas de cancer. Voilà, c'est un club qui souffre de partout, qui souffre à la tête, qui souffre au niveau des jambes, c'est-à-dire au niveau du sportif aussi. Quand je dis la tête, je pense aussi au niveau de l'encadrement technique. On voit bien qu'ils n'arrivent plus à trouver les solutions, ça ne répond plus. La tête envoie des messages aux jambes, les jambes ne répondent plus. Emeric citait ce match perdu il n'y a même pas 15 jours. Contre Chelsea, parce que n'oublions pas, Crystal Palace, c'est Londres. Oui. C'était aussi un autre derby londonien.
Derby, effectivement, c'était dans la ville.
Voilà. Et Crystal Palace adore ce type de match parce que ils sont les petits.
Crystal Palace essaye de sauver en
ils
plus
veulent,
de
ils veulent
la relégation.
Se sauver, c'est important pour eux. Ça passe par des grosses rencontres. Ils en profitent. Ils se refont, non pas une santé, mais ils se refont, ils revivent. Voilà, ils se font plaisir contre des équipes comme Arsenal qui ne répondent plus. Emeric expliquait qu'ils sont sixième. Je vous dis, pour moi, ils vont passer derrière Everton. Alors vous allez me dire, ouais, mais Franck, vous aimez bien Everton.
Oui.
Mais il n'y a plus qu'un but d'écart à la différence de but aujourd'hui entre Arsenal et Everton.
Un point.
Non.
Un but.
Il y a un but. Ils ont égalité de points.
Il y a
un but d'écart. Everton, dans, je dirais, le Everton qu'on a vu récemment, celui qui a failli battre Man United il y a quelques jours et qui a battu le champion sortant Leicester 4-2, cet Everton aujourd'hui est en mesure de passer devant. Il y a la dynamique, il y a le vent dans le dos, ce qui n'est pas le cas d'Arsenal. Et on ne voit pas comment cette équipe ne va pas s'écrouler et finalement échouer à la 7e place. Parce qu'ils n'iront pas plus haut. Hein.
Carlos, on vous a déjà entendu ici dire que quand il y a une victoire, elle est attribuée 80% aux joueurs, vous le dites. Là, est-ce que Arsène Wenger, le coach, l'entraîneur, le manager historique de ce club, est un problème selon vous ?
Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que...
C'est de la faute des joueurs. 80%
quand
ils gagnent et quand ils perdent aussi.
On est 20 et 30% à notre faveur. Et le reste, c'est 70 ou 80, c'est les joueurs. Et quand tu perds un match, c'est pareil. C'est les joueurs 70-80%. Celui qui fait l'équipe, c'est l'entraîneur.
Oui,
mais les joueurs qui sont là, ils sont démontrés par le passé qu'ils méritaient d'être là. Alors, en ce moment, ils sont en mauvais passage.
Il y a eu des petits messages, par exemple, d'Alexis Sanchez pendant la trêve internationale qui dit « Moi, je vais être dans un club qui gagne ».
Et qui est-ce qui ne veut pas être dans une équipe qui gagne?
Mais c'était un
message.
Je ne
connais pas. Et un jour, l'autre jour, j'ai lu que Bielsa, il a dit « La victoire, il t'élève la joie ». Je ne comprends pas.
Carlos, il y a une chose, je suis d'accord avec le pourcentage ou la responsabilité limitée de l'entraîneur au moment du match. Mais la responsabilité de Wenger à Arsenal, elle est bien supérieure au moment du match.
Oui, mais ce n'est pas lui qui joue.
Ce n'est pas lui qui joue, ok, mais c'est lui qui a choisi
recruté.
Les joueurs. C'est lui qui a recruté. C'est lui qui a installé toute la politique sportive du club avec succès. Mais avec une limite aussi. Alors, c'est que voilà, Arsenal a des comptes qui sont dans le vert, a un très beau stade.
C'est
un très bon manager. Simplement, il a eu une limite depuis, une douzaine d'années maintenant. C'est que ça ne passe pas en Ligue des Champions. Il se qualifie toujours pour la Coupe d'Europe, mais ça s'arrête au mieux.
Ça
au fait
19
final,
ans
voilà.
qu'ils sont là toujours en Coupe d'Europe. Et là,
là, ça passera peut-être. Et s'il n'y a même plus de qualification, là, le modèle Wenger montre des signes d'épuisement quand même, parce qu'il n'y a pas de victoire au bout.
Oui, mais c'est des pays, de tous les pays qui sont hauts des tableaux. En Angleterre, c'est celui qui a le plus petit budget. Il vient derrière Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, tout ça, hein, il vient à l'Arsenal après.
Et Carlos, comment on fait quand on est coach, manager, entraîneur pour résister à cette pression? Parce que on les voit, les supporters qui hurlent dans le stade, et qui disent « enough is enough ».
Ça fait mal. Ça fait mal parce que surtout pour Arsène. Pour Arsène, ça fait mal. Parce
qu'il n'a pas su partir au bon moment.
Mais oui, mais quand c'est le bon moment? C'est comme le joueur de football.
C'est quand tu as tout gagné, peut-être. Quand tu as,
oui,
quand gagné les titres, tu t'en vas, on va pas te reprocher.
Oui, mais quand tu gagnes, tu dis, mais pourquoi tu nous laisses tomber maintenant qu'on a gagné?
Mais il peut prendre le recul.
Regarde Ranieri. Regarde Ranieri. S'il aurait parti.
Ben oui.
Oui.
Et on l'a chassé.
Qu'est-ce qu'on aurait dit? Qu'est-ce qu'on aurait dit si après avoir été champion, il aurait parti? Et comment ça se fait maintenant que tu es champion, tu t'en vas?
Bon, en tout cas, il n'a rien dit, Arsène Wenger, sur son avenir qui reste donc en suspens, puisqu'on sait Arsenal lui aurait proposé de signer
club,
encore.
Mais les dirigeants du club, ils ont proposé un contrat de 2 ans.
Oui, mais eux, ils pensent aux finances peut-être plus qu'aux résultats sportifs, c'est ce que reprochent les supporters. L'Argentine sans sélectionneur. Depuis hier soir, Edgardo Baosa n'est plus à la tête de l'Albi Celeste. Au bout
non,
de
non
9
Carlos,
mois.
Il veut s'en
Restez
aller.
Restez là, Carlos, on a des questions à vous poser. Au bout de 9 mois et 8 matchs avec Lionel Messi et ses camarades, Edgardo, donc Baosa, n'a pas résisté aux pressions de la fédération à l'issue de la dernière journée de qualification. Aussi, il faut bien le dire, 14 matchs, l'Argentine est seulement 5e en place de barrage. Donc, est-ce que c'est la faute du sélectionneur? Sélectionneur Carlos, c'est la faute des joueurs, c'est la faute de Messi.
Pourquoi Messi? Il n'y a pas que Messi qui joue seulement.
Non, d'ailleurs, la dernière fois, il jouait pas.
Le dernier match,
il n'a pas joué. Il y a eu des soucis.
Moi, je pense, je suis en convaincu que l'Argentine va se qualifier pour la Coupe du Monde. Je suis en convaincu. Et il manque 4 matchs et le premier match, c'est le plus difficile de tous. Mm-hmm. Parce qu'il faut aller jouer à Uruguay et jouer sans Messi. Et ça va être un match compliqué, surtout qu'eux, ils récupèrent Suarez et Cavani, il est en forme. Mais.
Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous? Si vous étiez nommé coach, là, si on vous appelait, non, si on vous disait que vous êtes sélectionné.
On est arrivé très loin.
Mais selon
moi,
vous.
Moi, je pense que l'Argentine, il a les joueurs pour se qualifier, surtout.
Oui, c'est ce qu'on a l'impression. Bon, ils sont vice-champions du monde.
Mais quand on les voit jouer, tous les joueurs argentins en Europe, individuellement, ils font tous bien. De Maria au Paris Saint-Germain, Agüero, Manchester City, Messi, etc. Le problème, il est là, c'est que quand ils arrivent à la sélection, peut-être qu'ils n'arrivent pas à voir le niveau qu'ils sont dans leur club. Alors, la sélection argentine, il finit pour être une équipe, un pays banal. C'est là le problème. C'est pas l'entraîneur qui joue.
Mais c'est le sélectionneur, c'est son rôle de les faire jouer ensemble.
Et oui, il les fait jouer ensemble. Il fait jouer Agüero, Messi.
Mais on dit qu'il n'y a pas de style dans cette équipe,
non,
Alejandro.
Mais je pense que le vrai problème n'est
des
pas.
Des fois,
là.
Je crois que. Pardon, Alexandre. Des fois, je crois qu'on pêche de que. On met beaucoup de joueurs offensifs comme on peut faire jouer Agüero, Messi et Higuaín. Mais il n'y a pas un créateur. Parce que Messi, ce n'est pas un créateur de jeu. Ce n'est pas lui qui va donner le fond de jeu à l'équipe. À l'Argentine, il manque des milieux terrain créatifs. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Enfin, à Moutinho.
J'espère surtout que les auditeurs vous comprennent.
À Iniesta, des milieux terrain créatifs. Il n'y a pas de milieux terrain créatifs.
Oui.
Parce que le milieu terrain de l'Argentine, il joue Pérez, il joue Mascherano, il joue Biglia. Ce ne sont pas des créateurs.
Oui, mais je pense qu'on peut difficilement comprendre ce qui se passe avec l'Argentine si on ne constate pas déjà que Edgardo Baosa a souffert du fait d'être un sélectionneur par défaut. On se rappelle Tata Martino qui démissionne l'été dernier parce qu'il y avait d'énormes problèmes avec la Fédération d'Argentine.
Qui et parce qu'ils n'ont pas gagné la Copa América aussi.
Plus des dirigeants, etc. Il y avait une situation chaotique. Et Baosa est nommé parce que c'était pratiquement le seul candidat qui pouvait accepter d'arriver dans ces conditions, c'est-à-dire sans toucher de salaire, sans les conditions
de travail. Comme en Afrique, vous voulez dire.
Minimal. Voilà, c'est une situation à l'africaine, comme on dit parfois de façon un peu aimable.
Oui.
Et c'est vrai que si l'Argentine n'avait pas été l'Argentine, mais le Mali ou un pays africain, il aurait été carrément suspendu par la FIFA. Bon, la FIFA avait il a envoyé des émissaires pour diriger par défaut pendant plusieurs mois l'équipe, enfin la fédération.
La fédération de football argentine.
Et on vient d'arriver au bout de ce système avec l'élection d'un président. Ça a été très long, ça a été très compliqué. Et ce nouveau président voulait évidemment avoir les mains libres et donc il a tout fait pour virer Bauza ou pour le pousser au départ. Et aujourd'hui, sa mission est de trouver un remplaçant.
Alors, parmi les remplaçants, il y a des noms qui circulent. Carlos Diego Simeone, Jorge Sampaoli, voire Marcelo Gallardo, voire le vôtre, puisque nous, on le ferait bien circuler. Je plaisante.
Merci, Annie. Qu'est-ce que tu es
gentil. Alejandro est prêt à aller vous aider, en plus. Non, ouais. Carlos.
Qui
serait adapté pour... c'est un peu une opération commando, là. On est à un an et quelques mois d'une Coupe du Monde... Ou vous non, dites que l'Argentine...
C'est une question de 2 mois. C'est une question de 2 mois, là. 3 mois, combien il manque pour faire jouer les éliminatoires.
Ça va se jouer entre la fin août et...
Le dernier match, c'est l'Argentine.
Le sélectionneur emmènera cette équipe en Coupe du Monde en Russie.
Oui. N'importe quel...
Dans un mois.
Oui, mais je ne sais pas dans lequel an, ça sera l'entraîneur.
Mais qui serait le mieux pour vous, entre Simeone et Sampaoli?
Il faut avoir envie d'être entraîneur de la sélection argentine.
Ouais, c'est
il
pas
faut
le même
avoir
travail.
Envie de côtoyer les dirigeants du football argentin.
Oh, il y a un message là caché, non?
Non, mais si, en disant ça, c'est comme il y a comme une ambiance autour de la sélection qui est quand même pas favorable. Ça se joue souvent à rien, le football, c'est des écarts très petits. Et quand on a un sélectionneur qui se sent pas soutenu par son président, lequel président est lui-même un peu là par hasard, sous contrainte, sous surveillance, qu'on a une fédération qui est pas sereine, et où il y a en permanence des rumeurs de corruption, enfin c'est quand même pas un climat qui est favorable pour jouer au football.
C'est sûr.
Et ça, que les joueurs le veuillent ou non,
c'est pour ça qu'il y a tellement des entraîneurs qui veulent pas travailler en Argentine.
Eh oui. C'est bien dommage pour l'Albi Céleste, mais on attend quand même du neuf et du mieux. Merci à tous de nous avoir suivis et merci surtout à David Finzel et à Richard Rifono. On se retrouve à 21h10 en temps universel. À tout à l'heure.